du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais revenir aujourd'hui pour ce sermon sur la belle fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. Vous savez que ce mois d'octobre est entièrement consacré au Rosaire à Notre-Dame. Et à cause de l'importance de cette fête, je voudrais vous en dire quelques mots. Le rosaire a toujours une place toute particulière dans la dévotion d'un catholique. Un catholique devrait dire son chapelet bien tous les jours, et même pour ceux qui ont le temps, le rosaire, prendre le temps pour trouver, pour prier le rosaire tous les jours. Le rosaire a une importance tellement importante que les anciens appelaient le rosaire le bréviaire du laïc. Vous savez que tous les jours, le prêtre dit son bréviaire. Et dans le bréviaire du prêtre, il y a les 150 psaumes de David qui sont répartis un petit peu tous les jours entre les différentes heures de la journée, matin, l'aude, prime, tierce, sexe, non et compris, complet tous les jours, plus les 5 jours, les 7 jours de la semaine, pardon. Et entre les 7 jours de la semaine et les différentes heures, petites heures et grandes heures du bréviaire, eh bien on dit, toutes les semaines, on lit toutes les 150 psaumes de David. De la même façon, pour le rosaire, il y a 150 jours au Salut Marie. Donc on appelait pour cette raison, les anciens appelaient le rosaire le psautier de Notre-Dame, ou le bréviaire tout simplement des laïcs. Il y a une importance très importante, il y a une importance capitale surtout aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés, vous savez bien mieux que moi comment dans le monde moderne on fait tout pour justement détruire cette dévotion envers la très sainte Vierge Marie. C'est avec le symbole des 150 Je vous salue Marie, qui représentait encore une fois les 150 psaumes du bréviaire du prêtre, a été totalement détruit avec l'introduction des fameux mystères lumineux de Jean-Paul II. C'est pour ça que le symbole a lui-même complètement disparu. Vous voyez comme c'est important de s'accrocher à ces traditions. On ne prie pas comme on veut dans l'Église catholique. On prie comme on doit prier. De la même façon que le prêtre, lorsqu'il célèbre la Sainte Messe, doit suivre chacune des rubriques de la rubrique de la Sainte Messe. C'est pour ça que dans le mystère, toute une série d'explications qui sont écrites en rouge. Rouge en latin, c'est rubère, c'est pour ça qu'on appelle ça des rubriques. Et les rubriques expliquent pour chaque moment de la messe les détails de chaque geste que doit faire le prêtre pour bien s'accrocher à ce que l'Église a toujours dit et toujours fait. De la même façon, il faut faire la même chose, mes bien chers frères, avec la récitation du chapelet, bien s'accrocher à ce que l'Église a toujours enseigné. Le rosaire nous a été donné par Saint Dominique au XIIIe siècle. Et si la très sainte Vierge Marie a voulu donner le rosaire à Saint Dominique, c'est pas pour rien. N'oubliez pas que Saint Dominique n'arrivait pas, l'Église catholique n'arrivait pas à lutter contre ces gnoses terribles qui s'appelaient l'Église des Cathares dans le sud de la France. Espèce de manichéisme qui distinguait deux dieux, un dieu, le dieu bon, un dieu mauvais, le dieu bon, là, l'esprit, le dieu mauvais, la matière. Et l'Église ne savait pas très bien comment lutter contre cette terrible hérésie. La très sainte Vierge Marie a donné le rosaire à Saint Dominique et lui a dit prêche le rosaire. Et en priant le rosaire, en prêchant le rosaire, et Saint Dominique a pu, avec toute l'Église catholique, a pu justement éradiquer pratiquement, complètement, au moins pour un temps, et cette hérésie épouvantable. Alors essayons, mes bien chers frères, essayons de revoir un petit peu l'importance du rosaire. Eh bien, le rosaire est tout simplement un condensé, en quelque sorte, un résumé de toute la prière de l'Église, de toute la foi de l'Église. Vous savez, j'ai dit plusieurs fois que lorsqu'on s'approche du bon Dieu, on ne peut pas posséder le bon Dieu en 5 minutes. On est obligé de passer par des étapes, comme des marches qui montent vers le bon Dieu. Et les premières marches, on appelle le premier jet de marche qui nous mène vers le bon Dieu, on appelle ça la vie purgative. La vie purgative, c'est quoi? Pour garer en latin, ça veut dire purifier. La vie purgative, c'est donc une vie de purification basée surtout sur la pénitence et qui correspond effectivement, évidemment, au mystère joyeux du rosaire. Après, une fois qu'on a atteint la première marche, le premier plateau, si vous voulez, au-dessus de la vie purgative, ben on va passer à une deuxième étape, la vie illuminative. C'est-à-dire pour recevoir les lumières du Saint-Esprit. Illuminare en latin, ça veut dire éclairer. Et donc, après s'être purifié, s'être détaché de sa volonté propre, puisque c'est le but de la vie purgative, mettre sa volonté propre de côté, pour pouvoir introduire à la place de sa volonté propre la volonté du bon Dieu dans nos âmes, eh bien, à ce moment-là, on peut passer en vie illuminative et recevoir les lumières du Saint-Esprit. Puis, au bout d'un certain nombre de marches, dans cette vie illuminative, il y a un deuxième plateau, et cela va nous introduire notre âme dans la vie mystique, dans la vie unitive, avec ce qu'on appelle la vie unitive. Donc, il y a trois niveaux, si vous voulez, la vie purgative, la vie illuminative et la vie unitive. Donc la vie purgative va correspondre évidemment au mystère joyeux du rosaire, la vie illuminative va correspondre au mystère douloureux du rosaire, et la vie unitive ou mystique, la voie unitive ou mystique va correspondre cette fois-ci au mystère glorieux du rosaire. Donc quand on prie son chapelet, on résume en quelque sorte l'ensemble de la prière de l'Église. C'est cela qu'il y a trois séries de mystères. Et encore une fois, on voit bien en introduisant une quatrième série de mystères, avec les mystères lumineux, Jean-Paul II a cassé justement tous ces symboles qui sont tellement importants. L'église vide, symbole. La croix est un symbole, l'eau bénite est un symbole, les stations du chemin de croix sur les murs sont des symboles. Quand on casse ces symboles, on casse le symbole pour casser ce qui est derrière le symbole. Quand on enlève la croix, par exemple, d'une église, qu'est-ce qu'on fait en enlevant la croix d'une église ? En enlevant la croix d'une église, on casse le symbole de la croix. Qu'est-ce que c'est que le symbole de la croix ? La croix, c'est le symbole de la rédemption. Donc en enlevant la croix d'une église, on donne l'impression que le mystère de la rédemption va lui-même complètement disparaître. En transformant, par exemple, le mystère de la Sainte Messe en un simple repas, on détruit complètement le sens de la messe, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Voilà pourquoi il faut encore une fois s'accrocher à toutes ces traditions. On n'innove rien du tout. On n'a pas d'idée personnelle dans l'Église catholique. Je me rappelle Mgr Lefebvre qui nous disait au séminaire dans notre temps de formation, il disait, ceux qui ont ici des idées personnelles en matière de dogme, ils peuvent partir tout de suite. On n'est pas des protestants. Chez les protestants, chacun peut avoir son mot à dire sur n'importe quoi. Donc chaque protestant a ses propres dogmes, en quelque sorte. On dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. C'est un peu vrai. Dans l'Église catholique, on n'agit pas comme ça. Dans l'Église catholique, au contraire, on s'accroche, encore une fois, à ce qui a toujours été fait dans l'Église, parce que l'Église catholique, par sa stabilité, indique, en quelque sorte, nous conduit à la stabilité divine. Dieu ne change pas. En Dieu, nous dit la Sainte Écriture, en Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un changement. Donc on s'accroche à ce que l'Église a toujours fait, justement pour se mettre sur cette voie qui, par la voie purgative, la voie illuminative, nous aide à atteindre la voie unitive et ainsi atteindre l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, évidemment, ne va pas sans casse. Il faut un certain nombre de pénitences pour arriver à se détacher de tout ça. Un des signes, par exemple, qu'on est encore en voie purgative, c'est l'existence du péché mortel dans une âme. Donc une âme commet encore régulièrement des fautes graves, eh bien ça veut dire qu'elle est toujours en vie purgative. Lorsque, au contraire, une âme a pu, avec la grâce du bon Dieu, se détacher du péché mortel, qu'il n'y a plus habituellement de péché mortel dans cette âme, ça souvent veut dire qu'on est déjà passé en vie illuminative. Et là, on va commencer à lutter contre les péchés véniels. Et lorsqu'avec la grâce du bon Dieu, les péchés véniels ont pratiquement disparu, il ne reste plus que les péchés qu'on appelle les péchés de fragilité, qu'on ne peut pratiquement pas éviter ici-bas sur la terre, et à ce moment-là, c'est le signe qu'on a atteint la troisième partie de cette montée vers le bon Dieu. On est déjà en voie unitive ou en voie mystique. Et pour être sûr que l'âme qui monte vers le bon Dieu abandonne l'orgueil, au passage de chacune de ces voies, eh bien, le bon Dieu va donner une purification terrible aux âmes. Première purification entre la voie purgative et la voie illuminative, c'est ce qu'on appelle la nuit des sens. Le bon Dieu va enlever à l'âme toute consolation sensible. Il faut bien expliquer à l'âme qu'elle doit chercher le Dieu des consolations et pas les consolations du bon Dieu. Puis ensuite, quand on monte vers le bon Dieu, la deuxième étape entre l'âme, la partie illuminative et la voie unitive, il y a une deuxième purification encore plus sévère que la première, qui est la nuit de l'esprit. Cette fois-ci, non seulement le bon Dieu nous enlève les consolations sensibles, mais il va nous enlever aussi toutes sortes de consolations spirituelles. On a l'impression d'être dans une espèce de trou noir, une espèce de perte de foi complète, et il faut continuer d'avancer, même si on ne voit plus rien. C'est facile d'aimer le bon Dieu quand tout va bien. Le bon Dieu nous demande aussi de l'aimer quand tout va mal. C'est facile de prier le bon Dieu quand le bon Dieu exauce toutes nos prières à la moindre demande. Mais quand le bon Dieu se fait attendre, quand les prières ne sont pas répondues immédiatement, parce que le bon Dieu a décidé de nous faire attendre pour certaines choses, ou que ce qu'on demande est mal demandé, ne correspond pas à ce qu'il veut pour nous, eh bien, il faut à ce moment-là continuer de se battre. Et on voit, de même qu'on juge, si vous voulez, la valeur d'un soldat par son comportement en temps de guerre, de la même façon, on va juger la valeur d'un catholique en temps de guerre spirituelle. Eh bien, encore une fois, pour revenir au rosaire, le rosaire nous manifeste en quelque sorte tout cela. Pas pour rien que la Troisième Vierge Marie, à chaque fois qu'elle est apparue, surtout les grandes apparitions très connues comme Fatima ou Lourdes, eh bien, à chaque fois, la Troisième Vierge Marie apparaît avec le rosaire. Vous venez de nous montrer que ce rosaire est comme une chaîne, si vous voulez, qui a 150 anneaux, qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous unit au ciel. Il faut s'accrocher à la chaîne et grimper anneau par anneau, monter vers le ciel pour pouvoir justement atteindre, par la voie mystique, atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors résumons rapidement justement l'ensemble de la, si vous voulez, de l'esprit de l'Église concernant le chapelet. Les premiers mystères joyeux, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation au Temple, et Jésus qui est retrouvé au Temple à l'âge de 12 ans. Bien, tout cela va correspondre à, si vous voulez, la lumière du mystère de l'incarnation. Donc le centre des mystères joyeux, c'est l'incarnation. Mystère insondable qui est à la base de toute la foi catholique, mystère insondable par lequel notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la très sainte Trinité, accepte de devenir un homme. Prend une nature humaine dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie et accepte de devenir un homme pour pouvoir mourir sur la croix. Puisque Dieu ne peut pas mourir, évidemment, Dieu est éternel. Donc Dieu ne peut pas mourir. Donc le bon Dieu, justement, a demandé à son Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité, dans l'éternité de la Sainte Trinité, de prendre une nature humaine. Et donc pour cela, il va aller choisir une jeune fille d'une pureté extraordinaire, elle est l'Immaculée Conception, et lui demander de participer à ce plan de rédemption, ce plan de l'incarnation, ce plan de la rédemption, ce plan du salut des hommes, en donnant littéralement son corps et son sang pour qu'il devienne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au moment précis où la Très-Sainte Vierge Marie a dit à l'ange Gabriel « Qu'il en soit fait en moi selon votre parole », eh bien au moment de ce fiat, « Fiat mihi secundum verbum tuum », la Très-Sainte Vierge Marie devient un tabernacle vivant, exactement comme le tabernacle sur l'autel. De même que dans le tabernacle de l'autel, il y a contenu dans les six bois le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, la Troisième Vierge Marie est un tabernacle vivant parce qu'il contient, il a vraiment contenu pendant 9 mois, du 25 mars, au moment de l'Annonciation, jusqu'à la fête de Noël, naissance de notre Seigneur, elle a vraiment contenu littéralement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est donc véritablement mère de Dieu parce qu'elle est mère d'une personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, personne qui est véritablement Dieu. Et donc tous les mystères joyeux vont tourner en quelque sorte autour de ces grandes vérités, comme si vous voulez un magnifique diamant qu'on regarde sous différents angles. Je donne souvent cette comparaison. Il y a une lumière, la lumière du soleil qui frappe le diamant, et sur, quand on tourne autour de ce beau diamant, eh bien, on a des couleurs différentes selon la réflexion des rayons de soleil sur la pierre. Eh bien, il faut, avec le mystère joyeux, on tourne autour du mystère de l'incarnation pour en méditer toutes les parties, toutes les conséquences. Imaginez ce qui se serait passé si la Troisième Vierge Marie avait dit à l'ange gardien, pas question, moi je n'accepte pas de devenir mère de Dieu, parce que devenir mère de Dieu, ça veut dire, mère de Dieu, ça veut dire plein de problèmes. Je ne veux pas de plein de problèmes, je ne veux pas être co-rédemptrice du genre humain, parce que être co-rédemptrice du genre humain, ça veut dire de porter la croix bien trop lourde, d'aller chercher quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que l'a fait l'ange? Il serait monté vers le ciel, ça, elle a dit non. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien le bon Dieu a choisi justement cette femme, cette vierge, et lui a donné toutes les grâces pour qu'elle puisse justement dire oui, malgré toutes les conséquences pour elle. Après on monte en vie illuminative avec la contemplation des mystères douloureux. Et là évidemment c'est la contemplation du grand mystère de la rédemption. Rédemption c'est quoi? Redimere en latin c'est le rachat, racheter. En quelque sorte, l'homme, par sa désobéissance, en suivant les conséquences du péché originel, d'abord le péché originel pour Adam et Ève, puis ensuite tous les péchés conséquences du péché originel, l'homme s'est donné littéralement pieds et mains liés entre les pattes du démon. Le démon nous maintient en prison. Et qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Le bon Dieu va littéralement venir payer notre salut. Et en disant au démon, tu vas lâcher ces âmes et je te donne quelque chose à la place. C'est une image, bien sûr, pour expliquer, c'est tout le mystère de la rédemption. Et comment voulez-vous réparer quelque chose qui est infini? Le péché est infini dans un certain côté, puisque le péché mortel, c'est quoi? C'est mettre le bon Dieu dehors, et par la même porte que vient utiliser notre Seigneur pour quitter la maison, faire entrer quelqu'un, une créature finie. Dieu étant un être infini, il fallait donc quelque chose d'infini pour rattraper un malheur infini. Et donc il n'est pas possible d'utiliser une chose purement humaine pour rattraper le péché d'Adam et Ève. Et donc Dieu a dû utiliser un être infini, la seule chose infinie qui existe, c'est la divinité de notre Seigneur, évidemment. Donc Dieu est allé demander à son Fils d'accepter de devenir homme pour rattraper par le sacrifice du calvaire, rattraper le péché des hommes. Et donc par la méditation de tous les mystères, des cinq mystères douloureux, l'agonie au jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par la méditation de ces cinq mystères, on tourne autour du mystère de la rédemption pour l'examiner sur toutes ses faces. Et pour bien comprendre les conséquences du mystère, les conséquences de cette rédemption pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de rédemption sans effusion de sang, dit saint Paul. Et enfin, après avoir médité donc l'incarnation, la rédemption, on passe à la troisième étape. On va méditer la vie native, la vie mystique, par la méditation des cinq mystères glorieux du chapelet. La résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption de notre Seigneur Jésus-Marie, son couronnement au ciel. Et là, qu'est-ce qu'on médite? On lève les yeux vers le ciel, on contemple la divinité de notre Seigneur, on lève les yeux vers le ciel et on contemple la beauté du paradis. Donc, qu'est-ce qu'on va contempler par les mystères glorieux? On va contempler le but de la vie. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Je ne suis pas sur la terre pour garder mes yeux rivés sur la boue de la terre, la boue des péchés de la terre. Non, au contraire, le bon Dieu nous demande de lever les yeux vers le ciel, de contempler la divinité de notre Seigneur. Et donc, la méditation des cinq mystères glorieux va nous aider à comprendre justement la grandeur extraordinaire de ce paradis où le bon Dieu nous attend. Et donc il faut garder les yeux vers le ciel, et quand nous sommes un petit peu découragés avec les vicissitudes de cette vie ici-bas, on lève les yeux vers le ciel, et on regarde cette place que le bon Dieu a préparée pour chacun d'entre nous au paradis. Et comment la méditation, ainsi expliquée, la méditation des trois séries de mystères, joyeux, douloureux et glorieux, nous aide à résumer en quelque sorte toute la foi catholique. Toute la foi catholique. Pour cela que le démon s'est déchaîné contre le rosaire. Je vous donne un exemple que je vous ai peut-être déjà donné, mais c'est un exemple ahurissant que j'ai pu voir pratiquement de mes yeux vus au Mexique, quand j'étais au Mexique. Alors, le Mexique était un pays très attaché à la Sainte Vierge Marie à cause d'un miracle extraordinaire en 1531. Vous savez que la Sainte Vierge Marie est apparue à l'Indien Juan Diego et a laissé l'impression sur la tilma, c'est-à-dire le vêtement, le poncho de Juan Diego, a laissé l'image de la Sainte Vierge Marie, image qui se comporte avec des tas de propriétés extraordinaires qui ne sont même pas toutes comprises aujourd'hui. Par exemple, l'œil sur l'image de la Sainte Vierge Marie sur le poncho de Juan Diego, eh bien cet œil se comporte comme un œil vivant, comme un œil d'un homme ici-bas, vivant. Et donc le Mexique a une dévotion extraordinaire à la Sainte Vierge Marie. On voit cette image de la Sainte Vierge Marie absolument partout. Eh bien dans le sud du Mexique, donc les petits Indiens qui avaient une grande dévotion à la Sainte Vierge Marie, eh bien les prêtres modernistes de l'Église de Vatican II ont essayé de détruire cette dévotion. Et ils n'y arrivaient pas. J'expliquais comment ils s'y prenaient. Pour détruire ça, ils allaient dans les écoles des milieux très pauvres, qui étaient souvent tenus par les sœurs encore là-bas. Les sœurs intervenaient, ou même des laïcs, mais il y avait encore cette... Ils savaient tous que les enfants avaient cette foi catholique. Et donc, ils rentraient dans les salles de classe, le prêtre rentrait dans la salle des classes, évidemment, tous les enfants se levaient, et le prêtre disait aux enfants, « Buenos dias, niños. » Il dit, « Bonjour, mes enfants. » Et tous les enfants répondaient, « Buenos dias, padrecito. » « Bonjour, mon petit père. » C'est la formule de politesse là-bas pour les prêtres. Et le prêtre répétait la même chose. Il répétait aux enfants de nouveau, « Buenos dias, niños. » « Bonjour, les enfants. » Les enfants étaient un peu surpris, ils répétaient de nouveau, « Buenos dias, padrecito. » Et le prêtre s'est répété une troisième fois, « Buenos dias, niños. » Les enfants estomaqués répétaient, « Buenos dias, padrecito. » Alors le prêtre regardait les enfants et disait, vous pensez que je suis fou, hein? Mais à chaque fois que vous priez le chapelet, c'est ce que vous faites. En répétant constamment, les mêmes prières à notre Seigneur Jésus-Marie, arrêtez cette folie. Je veux dire une chose, je ne voudrais pas être dans les chaussons de ce prêtre le jour où il va devoir se présenter devant notre Seigneur Jésus-Marie. Parce que Saint Thomas a dit que le bon Dieu pardonnera tous les péchés, sauf le péché contre sa mère. Et c'est là où j'ai compris, en voyant des choses pareilles, c'est là où j'ai compris l'importance de la Très Sainte Vierge Marie. Quelqu'un qui a la Très Sainte Vierge Marie dans sa poche, le bon Dieu, le démon ne peut pratiquement rien faire. On dit, et c'est certainement vrai, que lorsque le démon veut pénétrer dans une âme, pour la détruire de l'intérieur, il va d'abord tourner autour de l'âme et regarder par la fenêtre, pour être sûr qu'il n'y a pas la Sainte Vierge dans l'âme. Et si en tournant, en regardant par la fenêtre, il a compris que la Très Sainte Vierge Marie dans cette âme, oulala, surtout je ne rentre pas parce que si je rentre, je perds la bataille, je perds des plumes. Il ne rentre pas. Donc protégez-vous, protégeons-nous par justement cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, au moins pendant le mois du rosaire, prenez le temps de réciter votre chapelet tous les jours. Quand tout va mal dans une famille, quand les choses s'éparpillent de tous les côtés, quand il n'y a plus rien qui marche, bien, commençons à apprendre à tomber à genoux et tous les soirs, par exemple après le repas du soir, c'est tellement le meilleur moment pour réciter son chapelet, tous les soirs, récitons notre chapelet justement pour demander la protection de notre Sainte Vierge Marie, nous aider aussi qu'elle nous guide dans cette ascension vers le bon Dieu par les trois étapes de la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Donc une famille qui prie le rosaire, une famille qui prie le chapelet, une famille qui reste ensemble. Les choses vont s'arranger. C'est pour ça que je suis très heureux de voir que beaucoup de gens font un effort, qui habitent à côté, entre autres, font un effort pour venir au chapelet tous les jours ici, parce qu'il est mieux, quand on peut, de prier chapelet en communauté, toute la famille. Si vous ne pouvez pas prier chapelet tout avec la famille, au moins priez-le tout seul. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, toutes ces grâces de lumière, ces grâces de compréhension, pour que nous puissions vraiment mettre la Très Sainte Vierge Marie dans notre cœur, parce que la mère et le fils ne sont pas séparables, ne peuvent pas séparer la reine du roi. Donc si la Très Sainte Vierge Marie rentre dans nos cœurs, elle prépare le terrain, immédiatement après, qu'est-ce qui suit? C'est son fils qui va suivre, son divin fils. Nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider justement à toutes ces choses-là pour que nous puissions véritablement bien rester en état de grâce tout le temps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.